When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Globalement, faut pas faire patron pour être indépendant ou penser que t'auras pas de patron. Il y a pas pire place que patron. J'avais un de mes anciens patrons, moi, qui disait, quand on lui disait, ah, t'as de la chance, personne te dirige, tu fais ce que tu veux. Et il leur répondait toujours que d'être patron, c'est terrible parce qu'on a un patron, c'est le marché. Et c'est le marché qui décide tout le temps.
Comme vous le savez, chez Thune Podcast, on met un soin particulier à faire parler tout le monde et à vous surprendre chaque semaine en vous proposant une parole différente sur l'argent. Celle de Guillaume est importante, parce qu'il est patron d'une grosse PME, du BTP, et parce qu'il est transfuge de classe, ce qui est très rare en réalité. Ces mots semblent parfois couler dans le béton qui a fait sa fortune, formant une sorte de forteresse qui le construit, qui le protège, et qu'il isole aussi, comme il le confie lui-même. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Guillaume. Guillaume, tu as 43 ans, et on peut dire en somme que tu es patron.
Patron, c'est pas un métier. En principe, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis maçon. C'est un gain de temps phénoménal. Je constate avec le recul que quand on dit qu'on est patron, ça peut vite cliver chez les interlocuteurs en face. Tu vas te retrouver avec des gens qui vont être impressionnés par la fonction, des gens qui vont avoir une image du patron où on va confondre le moindre artisan avec un patron du CAC 40.
Toi, t'es patron d'une boîte comment ?
Je crois qu'on classe ça dans les petites entreprises. On est 60, donc c'est pas une multinationale, quoi.
Chiffre d'affaires ?
Entre 7 et 8 millions, ce qui est pas terrible. On devrait tourner plutôt autour de 9-10.
On confond pas chiffre d'affaires et bénéfices ?
Exactement.
Hein, on fait attention.
Mais par contre, il y a un rapport entre les deux. Quand tu démarres tes entreprises, tu as un emprunt sur le dos qui est assez conséquent en principe. Tous tes gains vont d'abord aller à la banque. Donc faut vraiment que les entreprises tournent pour que tu aies, avec ton travail, le moyen de dégager suffisamment de cash pour payer ta banque.
Tu l'as créé quand ton entreprise ?
Je l'ai pas créé, c'est une reprise. C'est une entreprise qui a une quarantaine d'années d'existence et j'ai commencé à la diriger il y a une douzaine d'années.
Alors t'es pas né patron, hein ?
Ah non, surtout
t'as,
pas, non.
T'as grandi dans l'ouest de la France.
C'est ça.
C'est ça. Tu viens de quelle famille? Quel genre de...
Alors, classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus moyen, pas pauvre, pas riche. Surtout pas riche. des parents qui sont d'extraction familiale très, très dure. Des familles où il y avait vraiment rien, quoi. Des gens de la terre et d'un milieu très, très modeste. Et ça a donné une éducation avec des... Alors, pas forcément faire des grandes études, mais d'avoir des études pragmatiques qui te permettent d'avoir un boulot dont tu vivras.
Ils faisaient quoi, tes parents ?
Alors, mon père est carrier et ma mère était secrétaire de direction dans un hôpital.
Carrier ?
Granit, hein, les carrières.
Et vous étiez beaucoup de frères et sœurs ?
Non, j'ai un frère seulement, ouais, qui lui est infirmier psy.
Et il y avait donc l'idée de faire des bonnes études ?
Eux, ils n'avaient pas forcément le fantasme qu'on devienne avocat, médecin, un peu l'image d'Épinal. Par contre, qu'on ait un métier qui nous permettrait à coup sûr de vivre. J'aurais préféré une formation plus créative et artistique, et ils ont refusé.
Ah ouais,
on avait de la liberté, mais là-dessus, ils avaient leur mot à dire. Fallait faire de l'allemand, du latin, des trucs qui servent à rien, quoi.
T'étais bon à l'école ?
Moyen, mais des capacités. Mon père était carrier. Alors moi, dans l'idée, j'aurais voulu faire un truc avec du dessin, de la peinture. Eux voyaient le côté un peu saltimbanque entre guillemets et d'une profession qui permettra pas forcément de t'en sortir. Donc fallait faire un choix de deux. Il y avait éventuellement l'attrait que j'avais quand même pour le métier de mon père, les carrières et la pierre. Il y avait un truc là-dedans que j'aimais bien. Et puis comme il y a pas vraiment de formation là-dessus, le truc qui s'en approchait le plus, c'était d'entrer dans les filières du bâtiment en espérant pouvoir retourner plus ou moins là-dedans.
Et tu commences comme quoi ?
J'ai commencé sur chantier, mais alors très peu de temps. J'ai dû faire 6 mois sur chantier. Et puis,
comme maçon pour de vrai, là, du coup?
Alors, ouais. Alors, maçon coffreur, dans nos métiers, il y a plusieurs métiers. Tu peux faire de la maçonnerie pierre traditionnelle. Tu peux faire de la maçonnerie où tu vas monter des parpaings pour faire une maison. Et puis, quand tu commences à faire des immeubles, là, ça change de métier. Tu industrialises un peu les process. Et moi, j'étais plutôt dans la branche là. Enfin, dans cette branche là.
Pour faire des immeubles, quoi.
Exactement. C'est mon métier aujourd'hui.
Vous parliez d'argent à la maison quand t'étais petit?
Alors, ça parlait d'argent. Le truc qui a été vraiment marqué, c'était qu'on nous expliquait bien que dans la vie, on commence par se nourrir, se loger, et après, s'il en reste, on fera autre chose.
Donc, quand même, il faut assurer ses arrières.
Ouais, mais vraiment, le truc de trouille, de gens, je pense, ils ont eu vraiment des enfances dans un milieu pauvre. Et ils avaient ce truc de pas vouloir ça pour leurs enfants, quoi.
Et du coup, toi, t'es économe?
Non.
Ah bon?
Non. Ma mère avait très peur que je flambe. Hein. Donc, elle m'avait toujours dit, il faudra que tu fasses un métier où tu gagnes de l'argent, sinon tu seras dans la merde. Hein.
Ah ouais?
Ouais.
Et du coup, tu t'es dit ça?
Non, ça s'est fait... Alors là, c'est pareil, c'est le fait d'être rentré dans une première entreprise où ça s'est bien passé. Alors, je veux pas dire que je suis rentré dans une deuxième famille, mais je suis rentré dans des gens qui ont fini de me débourrer, comme pour un cheval, quoi. Moi, je venais d'une famille où on n'avait pas beaucoup de codes sociaux. Enfin, truc tout bête d'aller chez les gens, d'amener un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin. C'était pas un truc habituel parce que c'était que des gens généreux. Quand ils s'invitaient, il n'y avait pas besoin d'amener quelque chose. Donc, si tu veux, j'avais pas été exposé à la vie sociale quasiment. Tant professionnellement que socialement et pour certaines valeurs, je suis tombé sur des gens qui ont fini de me former
T'avais pas les codes bourgeois, en tout cas?
Ah, surtout pas et encore pas.
Ouais, t'as toujours pas l'impression de...
Non, d'ailleurs, je vis aujourd'hui dans un quartier de bourgeois et ça le fait pas parce que je suis pas bourge. Et il y a un client... Alors, j'ai déménagé d'un endroit où c'était un peu populaire en me disant, tiens, je vais aller habiter en ville pour différentes raisons. Persuadé que socioculturellement, je serais gagnant. Et non, en fait, non, carrément pas.
T'es un vrai transfuge de classe, en quelque sorte.
Alors ouais, j'ai un peu de mal avec le terme. Je trouve que mes parents sont presque plus des transfuges de classe que moi. Ils sont vraiment... d'une extraction très classe basse, quoi. Je trouve qu'eux, ils ont finalement fait un gap plus important entre leur classe d'origine et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui que moi. Finalement, moi, je suis né dans une classe moyenne. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais mes parents ont payé mes études et ma première voiture. Ça fait déjà une grosse diff, quoi.
C'est quoi ton premier gros salaire?
Alors, c'est pas tout de suite en bossant, mais par contre, l'entreprise avait un format très particulier. C'est une entreprise qui marchait bien à un moment où le bâtiment marchait très très fort, le début des années 2000, et sous le format d'une coopérative ouvrière de production, une SCOP. Donc, on avait des salaires qui étaient pas forcément extraordinaires par rapport au marché. Par contre, on avait participation, dividendes et sociétariat. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des parts dans la société, un peu comme des actions...
De l'intéressement.
Exactement. Et ce qui fait que très très vite, comme c'était des très très belles années, avec une boîte très très compétitive, à partir de 27-28 ans, ouais, ça a commencé à bien tomber. Et alors,
ça veut dire que tu te créais un capital, en fait. C'était pas
alors,
tant ton
notamment,
salaire.
Ouais, clairement. Arrivé à 30 ans, mon capital a été fait pour jusqu'à aujourd'hui, tu vois.
On peut parler de ce petit capital à 30 ans, on peut s'arrêter de façon chiffrée.
À 30 ans, quand j'ai quitté ma première entreprise, j'avais un peu plus de 100 000 euros de côté.
En fait, ton entreprise te rémunérait correctement,
c'était
un secteur en expansion.
Ouais. Pour donner un ordre d'idée, si tu veux, à une époque, je côtoyais un chirurgien cardiaque, on avait le même âge, donc lui, il a eu un cursus très long, etc. Quand il a commencé vraiment à être chirurgien cardiaque, je gagnais plus que lui.
Donc du coup, à 30 ans, tu gagnais à peu près combien?
Je sais pas, 4-5 000 balles par mois.
C'est pas mal, c'est vachement
bien.
Ouais,
je pense que je suis en dessous de la vérité, je crois.
Ah ouais.
J'ai pas refait de calcul, mais
ouais, plus 100 000 euros de côté grâce
alors,
à ce système
ça s'est
de
fait, ouais quand je suis sorti, j'ai récupéré mes parts sociales et des choses comme ça et puis à l'époque l'intéressement est bloqué pendant 5 ans par exemple pour le défiscaliser donc ce que tu mets de côté, moi j'ai un côté un peu donc quand on veut être une bonne cigale, on fait bien la fourmi.
Mais ça veut dire que à cet âge-là, tu gagnes énormément plus que
Alors par rapport à ce qu'on fait, on sauve pas des vies. Donc ouais, clairement, moi j'ai toujours eu un problème avec ça. Enfin pas un problème avec ça, mais un principe de réalité. Et avec toujours le même truc, c'est que comme tu gagnes bien, tu partages.
Donc tu files à tes parents?
Non, pas spécialement. Non. Même si... non, ça aurait été mal perçu, je pense. Mes parents très tard ont continué à me filer un bifton, un coup de tonton. Tu pouvais pas partir en vacances avant qu'ils te filent un truc dans la poche, quoi.
Ah ouais?
Ouais. On peut pas leur enlever ça. Non, mais par contre toujours partager beaucoup, c'est-à-dire que.
T'invites.
Ouais, je déteste les discussions de fin de repas où tout le monde commence à savoir s'il faut aller pisser pour pas payer l'addition. Donc en principe, je m'éclipse le premier pour aller aux toilettes et je paye l'addition, ça c'est réglé, quoi.
Est-ce que tu as commencé à avoir des signes extérieurs de richesse?
Une petite voiture de sport, enfin une voiture, c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture de circuit. J'aime bien les motos, quelques guitares, quelques surfs.
Est-ce que tu changes de sociabilité?
Non. Par contre, le regard des autres change, ouais. J'avais pas de mal à en parler. Grosso modo, si on me demandait ce que je faisais, j'en parlais. Si on me demandait combien je gagnais, je le disais. Et bah, quand tu partages, t'as pas à t'en vouloir d'avoir du fric. Puis je l'ai jamais volé à personne. Jamais été tellement à l'aise avec les sommes qu'on gagnait, parce qu'encore une fois, on sauve pas des vies, putain. On monte des bâtiments, c'est pas non plus.
C'est beaucoup de boulot.
Oui et non, parce que mon premier boulot, si tu veux, comme ça s'est bien passé, que j'ai trouvé mon compte, il y a eu un gros investissement personnel. C'est là que j'ai beaucoup travaillé, en fait. On commençait à 6h30 le matin, on finissait à 8h, 8h30 le soir, quoi. Des bonnes journées, ouais.
Et puis c'est un métier où on parle d'argent, puisqu'il y a des coûts, des frais, enfin il y a le coût des matériaux, il y a les devis.
On fait que ça, tout est rapport à l'argent, ouais. Même quand tu parles de temps, c'est corrélé à l'argent.
C'est qui tes clients ?
Des promoteurs, des institutionnels, des offices HLM.
Donc c'est pas des gens qui sont là pour faire
Ah non, clairement,
poésie,
c'est
quoi.
Pas des bisounours, non. Ils sont vraiment là avec une optique de produire un produit sur lequel ils vont dégager de la marge, etc. Et toi, t'as la même chose, un palier en dessous. Et toi, ton métier, quand tu prends en charge ces contrats-là, c'est de faire en sorte de faire le chantier pour le moins cher possible au regard de ce que ça t'est vendu, pour dégager une marge substantielle.
Tu m'as dit que tu avais repris l'entreprise dont tu es à la tête maintenant, il y a 12 ans.
Alors, si on refait le parcours, j'ai fait 11 ans dans ma première boutique. J'ai voulu faire de la direction, la hiérarchie était bloquée, c'était une hiérarchie qui était assez jeune, etc. Donc, j'avais plus le choix. Et puis, j'ai pris mon envol en me disant, de toute façon, depuis que tu as fait tout ton parcours, à chaque fois, dans ton taf, tu fais déjà quasiment le taf du mec au-dessus.
On dit souvent que le BTP, c'est quand même un secteur vachement tendu et qu'il n'y a pas tellement de chômage, par exemple. Alors, en tout cas, dans ces années-là, je crois qu'il n'y avait
pas
trop d'inquiétude.
Alors, ces années-là, de 2000, on va dire, jusqu'à 2010, ouais, c'est fou furax, ouais. C'est bien vendu, c'est paradoxalement, de 2010 à aujourd'hui, on vend beaucoup moins bien que les 10 années précédentes. Et là, pour le coup, les années du moment sont beaucoup plus dures.
Il y a eu un âge d'or, quoi. Il y a eu un âge d'or,
ouais,
tu t'inquiétais pas du tout de...
Ouais, clairement. Moi, je fais partie vraiment des enfants gâtés de ce truc-là. Alors, quand t'es enfant gâté d'une période, et en plus, quand t'es enfant gâté dans une boîte gâtée, enfin, c'est pas que ça fausse ton rapport au milieu, mais il faut garder la tête froide. Ces années-là, elles sont mortes, finies, on les reverra plus.
Mais il y a 12 ans, quand tu reprends une boîte, a priori, on est encore sur la queue de comète de
ouais,
de
ouais,
ce
ouais, on
de
est
grâce.
Encore sur la queue de la comète d'un truc qui se passe pas trop mal, ouais, complètement. Ouais.
Donc t'as envie de reprendre une boîte aussi pour.
Alors là, c'était ça passe ou ça casse. C'était où je me positionne dans ma vie à ce moment-là. Est-ce que je change d'orientation, parce que clairement, c'est des métiers qui te tirent dessus. C'est pas forcément toujours évident de combiner la vie familiale, etc., avec des grosses amplitudes horaires.
Ta situation à ce moment-là, t'as des
enfants, t'es marié. Je suis avec la maman de ma fille. Elle travaille à l'hôpital, elle est soignante. Elle aussi a des horaires alambiqués, mais elle me donne un gros coup de main. Enfin, franchement, à cette époque-là, sa présence fait toute la diff, quoi.
Et alors, quand tu reprends une boîte et que tu dois, toi, décider des salaires des autres et du tien, et faire les devis et faire les factures, est-ce que ça change ton rapport à l'argent ?
Si on parle juste de la question de tes salariés et du salaire que tu leur octroies, c'est pas ton toi qui décide que le marché. Hein. Globalement, faut pas faire patron pour être indépendant ou penser que t'auras pas de patron. Il y a pas pire place que patron. J'avais un de mes anciens patrons, moi, qui disait, quand on lui disait, ah, t'as de la chance, personne te dirige, tu fais ce que tu veux. Et il leur répondait toujours que d'être patron, c'est terrible parce qu'on a un patron, c'est le marché. Et c'est le marché qui décide tout le temps. Cette maxime-là, j'ai mis un peu de temps à la comprendre, mais aujourd'hui, je la comprends parfaitement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de magouilles dans le BTP?
À notre échelle, on peut pas. Le risque est trop grand. Il y a des gens qui ont fait, hein, jusqu'à aller, on va dire, dans les années 2000, il y avait des vieilles habitudes qui pouvaient encore traîner. Mais la justice a tapé très très fort du poing sur la table.
T'as déjà eu un contrôle fiscal ?
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais.
Ça, c'est
et
bien
ben, quand t'es clean, bah, t'as rien à craindre.
Ah oui, t'as.
Ouais. Et puis j'ai eu les deux en même temps, fiscal pro et perso.
Tout ça, ça dessine plutôt un destin financièrement très heureux.
Il n'y a rien de garanti. C'est-à-dire que tu peux décider à un moment donné d'avoir une rémunération qui te permet de vivre confortablement et tu peux être patron et te dire je vais vivre sur le dos de la bête. T'as des patrons qui ont fait ça, ils se mettent des salaires énormes, ils vivent constamment sur le dos de la boîte, c'est-à-dire que la carte de la boîte va servir à tout, restaurant, déplacement, voyage, hôtel, tout, la télé, le machin. Et puis, t'as des gens, alors moi, j'en fais partie, qui vont pas dépenser 10 balles de la boîte. Je paye l'essence de la voiture et ça s'arrête là.
Et tu te payes combien?
Aujourd'hui, je me paye 9000 euros net par mois.
Ça paye hyper bien le bâtiment, hein.
Il faut bien se dire qu'à un moment donné, quand t'es dans un système où il y a de l'argent qui circule, tu peux en capter. Si t'es dans le service public, il n'y a pas d'argent à circuler, donc t'en captes pas. C'est aussi bête que ça. Si un jour il t'arrive un pépin avec la boîte parce que la trésorerie disparaît, parce que t'as eu un problème de gestion, t'as eu une problématique extérieure qui t'a emmené dans le trou, faut être aussi capable à titre perso d'en remettre un peu. Après, c'est un choix personnel. Soit tu veux que ta boîte vive et sauvée, et puis parce que t'as une morale qui te dit, bah non, il y a des familles, etc. Je me suis engagé, je leur ai signé des CDI, le but de la manœuvre. Normalement, mon rôle, c'est de les emmener jusqu'à la retraite sans qu'ils se posent de questions.
C'était déjà arrivé de refinancer, de remettre au pot, de refinancer la boîte avec ton propre capital?
Indirectement, mais ouais, j'ai pas joué au con, ouais.
C'est quoi, indirectement?
Des travaux que t'as fait pour toi, que t'aurais pu te facturer très correctement, enfin, très généreusement, au sens où tu te fais un peu un cadeau. Là, tu le fais pas, tu te factures le prix fort.
Parce qu'effectivement, ta maison, en fait, je suis bête.
Je l'ai payée.
Tu l'as payée, du coup.
À un moment donné, on aurait pu considérer qu'en tant que maçon, j'allais réussir à écraser ma facture de maçonnerie. Et puis, on a eu un accro. Je dis, non, là, ce coup-ci, il faut que je la paye. Et puis, je l'ai payée bien, quoi.
C'est quoi le plus gros accro en question?
Première année où on reprend, il y a 4-5 ans, un office d'HLM qui a un directeur un peu facétieux qui m'a bloqué 620 000 euros pendant 18 mois. Notre première annuité qu'on devait remonter à la banque, il y avait l'équivalent de cette somme qui a été bloquée pendant 18 mois chez le client. Et il a fallu que je fasse intervenir un politique pour débloquer le truc, ouais.
Un politique local?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Un avocat, ça suffisait pas?
L'avocat, ça va tout de suite être belliqueux. J'ai jamais su ce qui s'était passé, mais à partir du moment où j'avais sollicité cette personne, dans le mois qui a suivi, ça s'est décanté.
Et t'as eu peur à ce moment-là?
Là, clairement, ouais.
Ah ouais.
Là, clairement, tu fais pas le malin. Tu t'as pas commencé que c'est déjà la merde, quoi. T'as plus de sécurité nulle part.
Voilà. C'est quoi le risque à la fin, si jamais, à ce moment-là...
Ça dépend de ton taux d'endettement, c'est-à-dire que y a un truc qu'on appelle la dette senior, c'est la dette que tu vas contracter pour acheter ton entreprise. Nous, en l'occurrence, on parle en millions d'euros. Donc, grosso modo, faut que je remonte entre 6 et 800 000 euros par an à la banque, pendant 7 ans, tous les ans.
Faut que la boîte rembourse...
Faut qu'elle crache 600 à 800 000 euros sur le papier pour que tu puisses les donner à la banque. Et après, ce qui restera, tu pourras en profiter avec les gars, quoi.
Est-ce que t'as un risque personnel?
Bien sûr. T'es engagé à titre perso, puisque t'es garant. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la question des salaires tout à l'heure. Tu te fais aussi des salaires pour faire un peu de patrimoine perso, pour pouvoir tamponner en cas de pépin. Dans la philosophie de la boîte, on va accepter à un moment donné que le patron va être assez bien payé pour qu'il puisse se faire un patrimoine sur lequel on pourra éventuellement compter si jamais un jour ça coince.
Mais on te demanderait pas les 600, 800 000 euros
Ça pourrait.
Personnellement, non, ça n'arrive pas.
Non, parce que là, après, t'as une mesure de faillite perso, enfin...
Et là, du coup, ça s'arrête.
Ouais, alors de toute façon, en plus, je me suis jamais tellement posé la question, parce qu'on veut pas que ça arrive, donc...
Et tu m'as dit qu'il y avait une deuxième fois où ça avait été vachement dur suite aux années Covid, non?
Ah, les années Covid... Alors, quand on a eu le Covid, ouais, là, clairement, on s'est demandé à quelle sauce on allait être mangé, et on était parti pour être arrêté à peu près un mois. On savait qu'entre un mois et 6 semaines, on perdait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comment tu vas faire avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins? Alors, on a eu la chance, on a bien géré notre sortie. On a repris le travail très, 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 très tôt par rapport à nos confrères. Concurrents, on pouvait pas, parce qu'ils étaient plus gros, etc. C'est l'avantage, des fois, d'être un petit poisson.
Alors, t'as des copains qui sont comme toi?
Non.
Patron de boîte de BTP?
Non, dans mon entourage, aussi gros que moi, non.
T'échanges pas même, justement, sur ces affaires de passage de coups difficiles, de gestion
Non, c'est ce qu'on me reproche, je suis assez isolé et même les directeurs à l'entreprise sont pas tellement contents avec ça. Je supporte pas l'hypocrisie de notre milieu parce que c'est un milieu qui est profondément hypocrite. Truc tout bête, quand ta boîte va bien, faut dire que ça va pas, faut faire toujours un peu le caliméro. Et quand ça va pas, faut dire que ça va pour pas qu'on te lâche. Et c'est un milieu, ouais, non, c'est pas franc du collier. Il n'y a pas de solidarité, il y a pas de... C'est que du vent, c'est de la façade.
Il faut beaucoup négocier?
Ouais. Quand je négocie avec un client, c'est moi qui suis fébrile sur le papier, façon de parler. Et puis, quand c'est les fournisseurs qui sont dans mon bureau, normalement, c'est eux qui sont fébriles. Il faut espérer. Et il y a très peu de personnes avec qui tu arrives à trouver des relations où tu sais que t'as un égo équilibré.
Donc on n'est pas sur un rapport à l'argent, puisque finalement, on parle que d'argent, serein ou convivial. On n'est pas sur de la bonne entente ou un pays de bisounours.
Non, c'est la guerre. Clairement.
Ah, c'est la guerre, carrément. Ouais.
Ouais, c'est la guerre avec des gens en cravate, mais...
Et ça se sent? Est-ce que c'est comme...
C'est assez puant, ouais.
C'est-à-dire que tu vas éventuellement... essayer d'être dur avec un fournisseur en sachant que lui essaye de te faire un peu pleurer pour que tu sois plus sympa ou
Ça peut arriver, mais comme je pratique pas le copinage avec eux, c'est vite plié, on est vite sur du factuel, quoi.
Et les clients, c'est un peu pareil
Alors les clients, c'est un peu plus délicat parce que tu peux pas arriver
là, faut que tu sois sympa.
On est mécanique, hein. Faut faire preuve d'humilité, faut comprendre leurs besoins. Mais avec le recul, aujourd'hui, clairement, c'est quand même souvent le montant du devis qui compte.
Tu me disais que, comme ton entourage n'était pas spécialement du tout patron, BTP, etc., dans ta vie personnelle, ça avait même pu faire cogner entre l'image que tu peux renvoyer ou la façon de vivre que tu as et, par exemple, tes histoires éventuellement affectives ou amoureuses.
Ouais.
Il peut y avoir des décalages comme ça.
Quand j'ai eu ma deuxième maison, j'ai fait quelque chose d'un peu plus grand, un peu mieux placé, etc., etc., une maison qui a un peu plus de valeur. Donc un peu plus cossu et ouais là par contre pour le coup ça a commencé à faire un peu alors c'était pas un signe ostentatoire de richesse mais les gens sont pas couillons, ils comparent ta baraque à la leur, ils voient où est la diff quoi, enfin c'est factuel, t'as une piscine, t'as un emplacement en ville, et ouais bah, j'avais une compagne à l'époque qui elle était pas du tout dans cette appétence là, le caractère ostentatoire de la maison lui posait problème. Je suis arrivé dans un quartier de Bourges qui m'ont pas fait de cadeau.
Qui t'ont pas fait de cadeau?
Ah, oh. Ils ont pas tellement aimé qu'un gamin se pointe et fasse une baraque plus grosse qu'à la leur. Alors, des jalousies. Alors, ça se traduit par, on va t'attaquer à l'urbanisme en attaquant ton permis. On t'emmerde sur tout et n'importe quoi. Et ça crée une ambiance assez tendue dans le quartier. Jusqu'à ce que ça pète carrément, quoi. Mais c'était hyper stressant. Alors, moi qui ai une...
T'as eu l'impression qu'il y avait un petit milieu... un peu ghetto de bourgeois dans lequel tu venais
c'est clairement ça, ouais.
Faire le chien dans ce jeu de quilles.
Ouais, clairement, ouais. Et puis comme j'ai pas leur code, du lundi au vendredi je suis en chemise, donc là je leur ressemble un peu. Puis bah le week-end je suis en jean, basket, puis les capuches, le chien de mauvais garçon, les motos de mauvais garçon, les tatouages de mauvais garçon.
Les tatouages, ouais, tu m'as dit.
Par contre, à force de leur tenir tête, et puis de, comme j'ai fait zéro connerie, c'est-à-dire que tous les griefs qu'ils ont eu contre moi, ils ont tous été démontés parce qu'ils étaient pas objectifs. Finalement, c'était de la frustration, de l'ego, je sais pas ce qui réglait avec eux-mêmes. Mais ça finit par se tasser, hein. Mais entre-temps, j'ai perdu ma compagne, quoi. Ouais. Alors, il y avait pas que ça, hein. Il y avait évidemment
pas de toute façon, trouver que la baraque avec piscine, ça l'intéressait pas. Donc
non, clairement. Et puis elle, clairement, ça la mettait mal à l'aise. C'était trop grand, c'était pour son truc.
Et donc tu me disais, tu mets de côté au cas où, effectivement, tu doives renflouer la boîte.
Ouais. C'est-à-dire que grosso modo, bah, tu te fous une grosse charge sur le dos avec ta maison, mais si demain il faut la vendre, tu auras un truc sur lequel tu peux rebondir.
T'as combien, toi, de dettes encore sur l'entreprise?
Sur l'entreprise, là, il doit rester un petit peu moins de 2 millions. Là.
Il y a une sorte de mode en ce moment dans l'air du temps, qui célèbre beaucoup les entrepreneurs.
Ouais. Mais on a, enfin, ça c'est pareil, c'est un leurre. On fait rien tout seul. Enfin, quand t'es patron, tu te constates que patron, ça veut rien dire. Quand tu fais de la direction, tu constates que les trois quarts du temps, si tu t'es bien entouré, tu soulages les gens de la responsabilité, de la prise de responsabilité. Ils viennent chercher une approbation, et en fait, les trois quarts du temps, c'est de les délester du poids de la responsabilité.
De valider ou d'avoir...
Ouais, de valider. Tu les délestes de la prise de responsabilité.
T'avais des aspirations artistiques, tu disais.
Ouais.
Alors là, t'es vraiment parti à l'inverse, quoi.
C'est, ouais, non.
T'es dans le dur de la thune et du parpaing.
Ouais.
C'est une frustration encore aujourd'hui ou...
Ouais. Après.
Et est-ce que l'argent peut compenser éventuellement cette...
Oui et non, parce que j'aurais jamais les moyens de mes ambitions artistiques si je devais juste acheter des œuvres, par exemple.
Est-ce que l'argent que t'as pu mettre de côté et la boîte que t'as créée, ça t'a rassuré financièrement?
Oui et non, c'est-à-dire que oui, d'un certain côté, parce que tu te dis qu'à terme, en toute logique, si tu fais pas trop de bêtises, le jour où tu décides de vendre, il y a quand même une valeur pour l'entreprise.
J'ai pas l'impression que c'est pour demain, hein. Que tu passerais ce cap-là.
Alors ça, c'est une grosse discussion, mais c'est... Plus la première porte de sortie approche, plus la question se pose. Je vais arriver à la fin de la dette senior. Là, si je vends, on récupère tout le fruit de la vente de l'entreprise, par exemple.
T'as plus de dette.
Sur le papier, dans 2 ans, j'en ai plus.
Et donc là, ce sera que dans ta poche.
Ouais. Mais ça, tu peux y penser, mais par contre, faut savoir pourquoi tu y penses. Est-ce que tu y penses parce que tu veux en être conscient juste pour pouvoir planifier un peu ton avenir et éventuellement t'ouvrir des portes, ou juste par pure cupidité, et dans ce cas-là, arrivé sur la fin, tu vas commencer à faire cracher la boîte comme un con, tu vas rentrer plein de CA, etc., et puis bah, tu maquilles la mariée, comme on dit, quoi.
Ah, ça, tout le monde fait ça.
Ah bah moi, je me suis fait clairement entuber sur le maquillage de mariée. Mon patron précédent nous a bien foutu, à moi et mon associé, le nez dans le guidon.
Ah, t'as récupéré une boîte avec des magouilles ?
Ah, des magouilles, c'est pas des magouilles, c'est... on avait un cimetière indien, quoi.
Il y avait des...
Des squelettes plein les placards.
De compta, de...
De tout ! Ah non, ça nous a pris 2 ans à peu près pour nettoyer les écuries de Gias.
Ah oui, ça c'est classique en fait. Les gens,
ça veut dire quoi, classique, je sais pas,
sur facture,
une erreur de jeunesse, d'avoir. Et clairement, moi j'ai fait une erreur de jugement sur la personne. Je pensais à aucun moment qu'il pourrait nous faire un coup pareil. Mais il s'est pas gêné.
Et t'as eu l'impression de te faire avoir ?
Me faire avoir tout seul. Je me suis beurré les lunettes.
Mais là, pour l'instant, donc t'es millionnaire ?
Ta boîte, elle vaut des millions le jour où t'as le chèque dans ta poche. Tant que tu l'as pas, ta boîte, c'est du cash virtuel.
Et en capital à toi ?
En capital, qu'est-ce que j'ai ? Bah, j'ai ma maison, mais qui est loin d'être payée. J'ai un appartement que je suis en train de vendre, là, qui va me permettre de refaire ma trésorerie et de repartir sur d'autres projets. Mais je veux dire, en capital total, ouais. Si tu dois tout... Ouais, c'est plusieurs millions, ouais.
Tu comptes pas ? Tu sais pas exactement ?
Je sais vaguement. Mais je pense qu'il devrait rester, un truc comme 4 millions à la fin.
4 millions, on a de quoi vivre une vie, en fait, non ?
Je me figure pas. Je suis jamais rentré dans ce genre de calcul.
La question d'arrêter de travailler ne s'est jamais posée.
Là, elle se pose.
Tu te dis que tu pourrais
complètement
arrêter de bosser ?
Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est de me retrouver isolé. Le jour où tu te retrouves où t'as pu, le truc qui te stimule tous les jours, tu vas te retrouver qu'avec des oisifs ou des inactifs. Et puis, c'est toujours pareil, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tu penses toujours que ça sera mieux en arrêtant de bosser, et puis finalement, t'y retournes tous les matins, quoi.
Mais t'as jamais pris un année sabbatique ou un truc comme ça, quoi ?
Non, j'ai travaillé, j'étais embauché 6 mois avant de quitter l'école, moi.
Tu es parti des 1%, en l'occurrence, avec...
Ouais, je pense, ouais. Je sais qu'il y a cette notion depuis un moment qui traîne, ouais, mais je pense que oui, on commence à rentrer là-dedans, ouais. Je peux pas dire que je fais pas ça pour l'argent, parce que comme l'argent est tout le temps prégnant dans ce qu'on fait, je tends à croire que si tu fais les choses pour l'argent, tu te perds et tu fais de la merde.
Et tu penses que le secteur dans lequel tu t'es retrouvé un peu par comme ça, par hasard de la vie, assez tôt, assez jeune, ouais. C'est un secteur chanceux ?
Ouais, mais alors, si nous, on arrive à dégager avec la chance qu'on a, c'est-à-dire que grosso modo, on arrive à dégager un peu de cash, etc., il y a plein de professions où les efforts sont moindres et les rémunérations sont largement plus confortables au rapport de l'effort qu'il y a de produit, quoi. Je travaille avec des promoteurs immobiliers, certaines majors, quand tu vas te balader dans leur bureau ou quand tu les côtoies pour certains, tu es effaré du salaire qu'ils peuvent toucher au rapport de ce qu'ils font. Ils foutent rien.
Donc on parle de tous les gros promoteurs immobiliers dont on voit les grandes pancartes sur les chantiers de construction.
Ah bah notamment chez eux, ouais, il y a des gens, franchement, tu te demandes à quoi ils servent. Et si déjà on enlevait les gens qui servent à rien et qu'on rémunère, le coût du logement en France s'en ressentirait.
Là, on est sur un moment de début de crise immobilière.
Alors là, c'est pas une crise, hein, c'est un mur.
Et tu t'y connais en mur, pardon.
Exactement. Mais ouais, non, là ils sont. Là, pour le. C'est bien la première fois depuis que j'ai commencé ma profession que je suis pas à l'aise pour eux, quoi. Autant les autres années, on se dit bon, les mecs, quand ils pleurent un peu, bon, ils ont du mal à t'émouvoir. Là, ça commence à être un peu problématique, c'est que eux, s'ils vont dans le mur, bah, nous, on va y aller derrière. Hein.
Hausse des taux, baisse des prix.
Alors, juste avant le Covid, on avait une première hausse des matériaux un peu déraisonnée, qui avait déjà commencé à affecter le coût de construction. Beaucoup d'industriels qui ont utilisé ces prétextes-là pour passer des hausses diverses et variées. Derrière, une autre problématique matériaux. Alors ça, c'était la matière première qui manquait pour le métal, par exemple. L'Ukraine, qui a pas été triste non plus. Parce que du jour au lendemain.
Ça, tu l'as senti, tous ces trucs-là,
tu les sens très vite, parce que très, très vite, les industriels qui t'envoient des hausses de matériaux, enfin, des hausses de coûts, et puis, ils se mouchent pas avec le coude, quoi. Là, on a été obligé de se fâcher, quoi. Au sens où, on savait que beaucoup d'industriels ont surutilisé les excuses pour nous coller des plus-values à droite et à gauche, quoi.
Donc, t'as vu ton bénéfice fondre un petit peu depuis 3 ans?
Ouais. Mais là, clairement, la crise qui s'annonce là risque d'être très très dure. C'est-à-dire que là, il risque d'y avoir un coup de patin très très dur.
T'investis en bourse, toi ?
Non, je l'ai fait une fois et ça m'a écœuré. J'étais tombé sur une émission économique, mais pas un média spécialisé économie. Ça devait être un truc sur culture ou je sais pas quoi. Et un professeur d'économie expliquait un peu comment boursicoter, les principes de base. On sortait de la crise des subprimes et il disait, bah tiens, c'est pas dur, quand on vient de vivre une crise mondiale comme ça, celui qui veut faire un coup en bourse facile, c'est de miser sur la zone Asie du Sud-Est. Quand les gens auront un peu de blé à revenir, le premier truc qu'ils vont faire, c'est acheter une platine vinyle, une télé, un machin. Et ben, ils vont acheter des produits Sony, Toshiba, qui sont au Japon, produits au Vietnam, en Chine, etc.
Donc
toute cette zone économique va être florissante. J'entends ça. Le lendemain, j'appelle la banquière, j'y tiens, on va essayer. Elle ne connaissait rien dans ce truc-là. Elle me dit, bah, je sais pas, j'ai renseigné. Je dis, non, vous faites tel truc, vous regardez si vous avez ça dans vos produits. Un truc axé Asie du Sud-Est. On a mis 5000 balles dessus. 6 mois après, ça avait gagné 1000 ou 1500 euros de plus. Quoi. Donc un gain phénoménal, 20-25% de renta en 6 mois. Mais je me suis dit, attends, ça va pas, tu peux pas gagner du fric comme ça sur le dos des autres. Enfin, ça n'a pas de sens. Je cautionne pas le truc. Donc très vite, j'ai retiré mes billes. J'ai dit, stop, bon bah voilà, j'ai vu, c'est... C'était trop facile.
C'est marrant parce que c'est pas un rapport que t'as qui te, quand tu gagnes de l'argent à travers ton travail, ton entreprise, ou par les placements intéressants que t'as pu faire, toi.
J'ai pas de respect tellement pour un rentier.
Ah ouais, voilà, c'est ça, hein.
Alors c'est pas du, c'est pas que je les snob ou quoi que ce soit. Ils ont pas de mérite.
Alors, t'as l'air de dire que c'est à la fois un milieu ultra dur où t'as pas tellement d'amitié. Et en même temps, t'es pas ami avec les bourgeois de ton quartier. T'as peur de te retrouver isolé si tu travaillais pas. T'as l'impression que finalement ton grand ami c'est le travail.
Merci de souligner un grand paradoxe, Kim.
Non, je sais pas.
Non, mais bah, tu soulignes clairement, typiquement ce que souligne tout le monde dans mon entourage depuis un moment.
Ouais. Ouais, c'est à la fois ton identité.
Bah, grosso modo, tout le monde est conscient que je suis coincé dans une situation dont je veux m'extirper, mais dans laquelle je retourne. Quoi.
Ah ouais, c'est ça le truc.
Ouais. Ouais.
Tu voudrais changer, mais tu saurais pas comment faire.
Ouais.
Est-ce que t'es du genre à saouler tes proches avec des problèmes de patron?
Alors, grosso modo, ils me reprochent de pas parler. C'est-à-dire que j'ai un seuil de tolérance assez élevé, mais par contre, le reste au-dessus, bah, y a pas grand-chose. Donc, c'est le principe de cocotte minute, quoi. Je peux avoir des dérapages, ouais. Des moments où ça cabosse.
À cause du stress?
Ouais. Et parce que je partage pas assez. Je me fais engueuler par la psy pour ça, je me fais engueuler.
Ah ouais?
Ouais. Je me faisais engueuler par mon entourage parce qu'un jour je pétais un pont pour un truc qui paraissait anodin et bah en parlant on dit bah mais putain ça fait 3 semaines que t'es pas bien, pourquoi tu l'as pas dit quoi.
Et c'est souvent des problèmes liés à la boîte ou?
Ah ouais. Ah bah là y a, pendant 15 jours 3 semaines ça s'est pas bien goupillé, je me suis enfermé quoi. Je me suis enfermé comme une huître.
Parce qu'il y a un contrat qui rentre pas, parce qu'il y a de la thune qui...
Entre autres, ouais.
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 T'as un associé.
Ouais.
Avec qui normalement tu peux partager Vous êtes dans le, pour le coup, vous êtes à égalité sur la prise de risque.
Ouais, mais ton associé, c'est pas ta famille. C'est pas ton entourage. Ton associé, tu le vois de 8h à 8h le soir, et puis c'est en dehors que... Par contre, le soir, quand tu rentres, tu te retrouves tout seul, et puis t'as la fatigue accumulée.
Et quand t'as des difficultés, du coup, t'en...
Ouais, ça peut arriver que je tarde à en parler, et... ouais, clairement, ouais.
Et t'exploses, quoi.
Ça peut arriver, ouais. Mais alors, par contre,
tu vas être complètement chiant pendant les prochaines années, quoi.
Oui, non, parce qu'en fait, quand tu comprends qu'à un moment donné, c'est ce truc-là qui finit par te foutre dedans socialement, bah, tu prends des mesures, tu vas voir un psy et...
Alors, est-ce que t'es allé voir un psy pour patron, justement? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui font du coaching.
Ah oui, j'ai fait ça, et puis alors là, clairement, moi, gros bémol.
T'es allé voir qui, comment, et c'est à côté combien?
Alors, c'était un coach pro qui vendait le truc un peu en étant entre le psy et le coach. Alors, le mec était un ancien d'une grande major de l'industrie, etc., etc. Alors, c'est vrai que le mec, il a fait un boulot de fou. Alors, ça a dû me coûter entre 5 et 7 000, un truc comme ça, je pense, sur un an et demi. C'est coûteux, hein. Bon, sur le papier, t'as le sentiment d'en tirer quelque chose. C'est vrai que quand tu ramènes cette somme-là, qui paraît importante parce que tu la payes perso, enfin là, en l'occurrence, je l'avais payé avec ma structure, mais tu te dis, dans tous les outils qu'ils te donnent, tu auras un retour sur investissement qui est sans commune mesure. Donc, tu le fais de bon cœur, quelque part. Et puis, tu te rends compte que dans tout le truc psy, ben, le mec, en fait, il te gonfle pas d'ego, mais il te regonfle, il te rebooste, etc. Et puis à un moment donné, faut que t'aies le... Enfin, moi, dans mon cas, il a fallu que j'aie l'objectivité de me dire, mais merde, mais à un moment donné, c'est pas moi qui est en train de construire et d'être fier. Il est pas... Non, il est en train de se passer la brosse à reluire à lui. T'as vu comment j'ai fait de toi quelqu'un de très fort, quoi. Et puis un jour, il y a un dernier truc qui m'a fait me dire, mais attends 2 secondes. Le mec m'explique à moi comment réussir dans ma vie, à surmonter les épreuves, etc. Mais tu dis, mais à un moment donné, ce mec-là, pourquoi il s'est pas appliqué ses principes à lui pour continuer à faire le boulot qu'il faisait avant? Et c'est là que j'ai ouvert les yeux, mais tardivement, quoi. Et que j'ai mis un point d'arrêt. Sur le côté, se faire plus beau qu'on est, entre guillemets, se faire plus gros qu'on est, plus costaud, avoir une image de quelqu'un de solide, incarner un peu le patron stéréotypé. C'était du vent total. Alors par contre, maintenant, je vois un psy pour moi, voilà. Parce que j'avais pas mal de choses à régler avec moi et ma famille, moi et moi-même. Donc j'avais des sujets perso à traiter, j'avais des sujets pro à traiter.
Tu fais encore 8h-8h ?
Un peu moins. Non, j'ai levé le pied. Aujourd'hui, je fais des journées de 10-11 heures, pas plus.
T'arrives à couper ?
Ouais, je vais au sport le midi, ouais.
Et le soir, ça t'entre pas dans le...
Ah si, alors, par contre, ça c'est autre chose. J'ai toujours eu un rapport au sommeil très compliqué, par exemple.
Ah ouais, mais du coup, tu continues à réfléchir à mouliner.
C'est un petit peu le problème, ouais. Le petit vélo qui a du mal à s'arrêter. Ouais. C'est le grand... C'était mon ex qui travaillait, par exemple, enfin, travaillait beaucoup autour de cet ex-là. Il y a un moment donné, est-ce que tu nourris pas la bête, quoi, enfin...
Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais les dernières années professionnelles ont été vachement enrichissantes. L'équipe s'est vachement structurée. J'ai des gens autour de moi qui sont extraordinaires. Et puis c'est ça qui est génial, ils sont capables de me dire merde. C'est top. Et ouais, il y a un caractère familial, ouais.
Tu crois qu'ils diraient la même chose ? Vous voyez avec les gens avec qui tu travailles ?
Ouais.
Tu crois qu'ils disent du mal de toi ? Est-ce que c'est ce qu'ils me disent du mal de toi ?
J'espère.
Tu penses ?
J'espère qu'ils vident leur sac quand on est dans un besoin. De toute façon, s'ils sont capables de me dire merde en face, ils sont tout à fait capables de me dire merde dans mon dos. Et je pense que pour qu'ils viennent à me dire merde en face, c'est que ça a commencé par derrière.
C'est un milieu viril un peu, le BTP, genre, avec des gens qui...
C'est moustachu comme milieu, ouais.
Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des salariés qui connaissent des difficultés financières, qui viennent te voir ?
Oh là là, putain, ouais. Prêter de l'argent, des choses comme ça ?
Ah bon ?
Ouais, bien sûr, ouais.
Ouais. Mais, par exemple ?
Des gens qui se sont enferrés dans un système de dette et le temps que ça s'éponge, tu fais des prêts relais.
Et c'est la boîte qui fait ?
Ouais. Faut faire très attention. T'es pas usurier, t'as pas le droit de le faire. Sur le papier, t'as des règles à respecter.
Et comment tu décides si c'est ok ou pas ?
Ta conscience.
Tu demandes leur compte aux gens, par exemple, ou tu demandes...
Ça dépend de la situation, mais ouais, j'ai rencontré des situations où on a même rencontré les banques, ouais.
Ah, les banques, carrément, de la personne...
Ouais, tu dis, on va se mettre en appui pour eux, donc tenez-en compte, quoi. Les foutez pas interdits bancaires trop vite.
Mais du coup, tu regardes comment ils dépensent leur argent ou...
C'est là que moi, au début dans ma carrière, je l'ai fait, ouais, mais ça va trop loin. Là, par contre, humainement, tu t'exposes. Là, tu t'abîmes. Parce que tu deviens
quasiment tuteur, quoi. Enfin...
Ouais. Et je me suis encore grillé les ailes il y a pas longtemps, là. Tu vois, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis trop investi personnellement avec un salarié et je me suis fait engueuler par mon entourage pro, quoi. Ils m'ont dit, faut arrêter, tu vas te faire mal. Enfin,
ça, c'est le rôle du patron aussi, quoi.
Pas forcément. Là, encore une fois, c'est toi qui décides. Tu fais avec ton âme et ta conscience, tu fais comme tu veux faire.
Et quelqu'un qui réclame une augmentation ?
Là, c'est autre chose. Soit il est méritoire, enfin, soit c'est justifié, etc. Donc on en discute. Soit ça y est pas. Puis après, c'est...
T'as quand même un sacré pouvoir par rapport à...
Ouais.
À la vie quotidienne des gens, quoi.
Complètement, ouais.
C'est souvent vachement dur pour tout un chacun, tout un chacune, d'aller demander une augmentation.
Ah ouais, clairement, ouais. Alors d'ailleurs, maintenant, ils ont trouvé le truc, ils vont plus me demander à moi, ils vont demander au directeur d'exploitation.
Pourquoi ?
Parce que il est plus doux que moi, il est plus...
Ah, parce que toi, tu peux faire peur dans ces moments-là ?
Ouais.
Ou...
Ah oui, au boulot, je suis pas... Il semblerait que, alors, de ce qu'on me rapporte, il semblerait que j'ai la réputation d'être dur, mais juste.
Mais en tout cas, quand ils prennent rendez-vous, qu'ils toquent à la porte de ton bureau, ils y vont pas...
Ça dépend desquels. Alors maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de turnover et puis ils me connaissent depuis longtemps maintenant, ça s'est vachement simplifié pour plein de gens. Mais j'ai pas beaucoup de demandes d'augmentation. Hein. Si tu payes bien les gens.
Et est-ce qu'il y a eu des demandes de, je sais pas, autre forme d'avantage ?
Des fois, t'as moyen de tendre la main différemment. C'est un truc tout bête, mais dans ta vie perso, souvent, le poste logement, c'est le plus gros poste que tu as. Nous, on a la chance d'être constructeur. Donc, à coup de temps en temps, on peut leur filer un coup de main à mieux acheter les matériaux. Tu vas leur prêter du matériel, autant de choses qui sont des lignes d'économie dans leur...
Et c'est discrétionnaire, c'est le patron qui décide ?
Ouais.
Donc selon que... Y a un petit côté, si t'aimes bien quelqu'un ou si t'aimes pas quelqu'un...
Ouais. Payer à la gueule, tu veux dire ?
Ouais.
Ouais, complètement, ouais.
Ouais, c'est un peu injuste, non ? Je sais pas.
Mais j'ai refusé à personne jusqu'à présent. Là, tu vois, les pots de bilan, depuis 5 ans, n'arrêtent pas de fleurir, quoi.
Ah bon ?
Ah ouais. Les dépôts de bilan sont... Ouais, il y en a beaucoup.
T'en connais des gens qui ont
la clé ? Ouais. Il y a eu une très... exemple typique. Une boîte voisine de la mienne, très comparable en taille. La boîte torpillée en un an. La boîte n'est même pas passée par le redressement, ils ont été liquidés direct. Tellement c'était grave. On a appris la liquidation, je veux dire, d'où ça sortait, quoi. C'était la boîte qui communiquait, qui machinait, qui avait un beau bâtiment.
Toi, t'as pas de proche qui s'est retrouvé dans cette situation-là, tu veux savoir comment ça se passe. Ah bon?
Hein? Mon père qui a failli tout perdre et qui a perdu beaucoup psychologiquement, mes parents morflés, enfin. Ouais.
En carrière?
Ouais.
Il avait une boîte aussi?
Ouais. Un impayé, qu'il a traîné, qu'il a foutu dedans pendant les 10 à 15 années qui ont suivi. En fait, quand t'as un trou dans ta trésorerie, c'est pas parce que l'année après tu fais une bonne année, il faut remblayer le trou, quoi. Donc ça peut te suivre pendant très 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 longtemps. Une boîte qui a pas une trésorerie solide, c'est une boîte qui est tout le temps fragile.
Ah, donc tu l'as vu traîner sa dette
Ouais, ah ouais, bah, et puis moi je travaillais un peu avec mon père, c'était une cata, quoi. C'est là que j'ai vu à quel point mon père était pas bon, quoi. Moi je m'étais mis en tête que mon père il savait ce qu'il faisait. Et quand j'ai commencé à bosser, donc du coup, avoir des semblants de responsabilité qui étaient les mêmes que les siennes. Oh, putain.
En compta, en gestion, en...
Rien, tout. Enfin, trop gentil, trop... C'est un mec qui a refusé à un moment donné de lourder un ou deux mecs à tort, parce qu'il s'est foutu dans une purée noire. Il faisait toutes les erreurs de gestion possibles et imaginables par bon cœur, quoi.
Et du coup, toi, t'es plus dur, quoi. En tout cas, tu te mets
ouais, pas ouais, dans clairement, ouais, 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 clairement, ouais, ouais. C'est ce qu'on dit, un loup va être capable de se bouffer la patte pour sortir du piège, pour survivre. Bah, y a un peu de ça, un coup de temps en temps, faut des trucs un peu drastiques, un peu violents, pour éviter de tout cabaner, quoi. Mon père, à un moment donné, par exemple, a pas voulu licencier quelqu'un, et puis au final, il a failli tout cabaner, quoi. Si demain, on parlait d'une situation compliquée qui pourrait arriver, une bonne décision, c'est d'être capable de prendre une décision qui peut être dure pour certains. C'est quelque chose auquel tu peux être confronté en tant que patron, et vaut mieux y être prêt. Ça fera mal au cul, ça doit le faire, mais s'il faut le faire pour le bien commun et que t'es convaincu que le bien commun passe par là, faudra savoir le faire.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.